Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter Le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, le meilleur ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises aux quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez lefondsftq.com/entreprise.
Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez dans le garage avec Les Dérangeants.
Bonjour à tous, ici Étienne Crevier à l'animation de ce Dans le garage spécial transfert d'entreprise, fièrement présenté par le Fonds de solidarité FTQ. Donc aujourd'hui, à l'ordre du jour, en fait, on se parle de reprenariat et comment est-ce qu'on peut avoir accès à une entreprise qui est déjà en affaires et sans avoir besoin de la bâtir. Pour m'accompagner dans l'épisode, je suis à ma gauche avec notre repreneur en chef, notre transfert, notre case study sur deux pattes, Marie-Claude Duquette du groupe
Salut
Pluton.
Étienne!
Comment ça va?
Ça va bien toi?
Ça va bien.
Mais toi aussi repreneur.
Oui, je suis un cédant. Moi, je vais me brander aujourd'hui comme cédant d'entreprise. Puis toi, tu vas être la repreneur.
Parfait.
Et pour nous, vraiment, nous accompagner, nous éclairer dans la situation au Québec sur le reprenariat, on est accompagné de Philippe Huneau, vice-président aux investissements, impact et développement international au Fonds de solidarité FTQ. Est-ce que j'ai eu ton titre comme du monde?
Presque.
OK.
Mais c'est pas grave, je t'entraînerai pas rigueur. Parce
qu'il manquait un peu
toi,
de souffle.
Oui, mais avec toi, vois-tu, t'es un cédant, on veut faire de toi un repreneur. Puis on veut que le repreneur puisse planifier puis devenir une cédante éventuellement.
Ah, j'aime ça. Ça, c'est comme ça part le bal. Et on est aussi avec Yannick Vallière, qui travaille en fonds directeur aux investissements dans les fonds régionaux de FTQ, basé à Québec. Salut Yannick.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, merci. Merci, messieurs, d'avoir accepté l'invitation de vous prêter au jeu. Je me doute que, dans le fond, c'est pas vraiment votre day job de venir faire des podcasts et de venir parler de reprenariat, mais vous êtes dans le vif, vous êtes dans le cœur, dans le fond, au Québec, pour parler de reprenariat. Puis j'aurais envie de partir le bal en disant, est-ce qu'on dit reprenariat ou transfert d'entreprise, Philippe?
Ben écoute, tout se dit. Dans repreneur,
on est inclusif.
On est inclusif.
J'aime
transmission,
ça.
Transfert d'entreprise. Souvent, reprenariat va sonner davantage comme un transfert à des familiales. Mais tu as trois types de transferts ou de transmission d'entreprise qui peuvent se faire. Tu as du transfert familial, tu as du transfert managérial qui est très important.
C'est vrai.
C'est celui peut-être qui est le plus négligé parce qu'il demande, qui est le moins évident. Et tu as celui d'un transfert à des tiers, que ce soit des fonds d'investissement ou des particuliers qui décident de se mettre ensemble et d'acheter une entreprise.
C'est lequel qu'on préfère?
Je pense qu'on les aime tous.
OK, ça en prend de tout.
C'est comme la famille, hein, on les aime tous, on aime tous nos enfants.
Tous pareil. Mais toi, Marc-Claude, dans le fond, tu as repris l'entreprise de ta mère.
Oui.
Est-ce que tu te décrirais comme une repreneur, une entrepreneur?
Bien, on m'a toujours décrit comme repreneur. Je pense qu'au fil des ans, tu avais déjà 10 ans. Aujourd'hui, je suis une entrepreneur. Puis, en tant qu'entrepreneur, avant de céder, je pense aussi vouloir reprendre d'autres entreprises. Fait que tu sais, je pense que... un dans l'autre, ça revient au même. Je pense qu'on est des entrepreneurs.
Tu as aimé l'expérience assez pour dire que j'aime ça, prendre ce qui existe.
Mais pour moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Quand je vois les gens vouloir repartir de zéro, de la base, puis de tout construire, moi, j'aime mieux aller chercher du financement, prendre quelque chose qui fonctionne bien, de le mettre
à ta sauce.
À ma sauce, mais puis plus profitable. Il y a plein d'opportunités, puis je trouve que c'est souvent sous-estimé. Personnellement, c'est mon choix.
Et c'est tellement important ce que tu dis. Parce que il y a 34 000 entreprises qui vont se vendre, qui vont être cédées dans les prochaines années. Donc, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui correspond à tes valeurs. Et c'est pour ça que de plus en plus, on passe d'une culture d'entrepreneur à une culture de repreneur. Et ça, c'est important en termes de réflexes, en termes de réseau, puis en termes d'outils pour réaliser ces transactions-là.
Ce que j'aime de ce qu'on dit, puis je pense que c'est souvent négligé, c'est pas parce qu'on est repreneur ou qu'on a acheté une entreprise que ça nous empêche d'innover. Si on a quand même l'idée d'un nouveau produit ou mais on a juste la plateforme qui existe pour la propulser avec un reprenariat dans un secteur. Toi, Yannick, tu le vois un peu, au fond, à Québec, vous avez un certain bassin de cédants qui cherchent la relève. Puis c'est pas juste démographique, on ne parle pas juste de baby boomers ou de
qui veulent vraiment donner.
Non, non, pas du tout. Puis pour faire peut-être une parenthèse sur les fonds régionaux, tu sais, on est présent vraiment dans les 16 régions administratives du Québec. C'est quelque chose qui est super important pour nous de couvrir l'ensemble du Québec sur tous les fronts pour tout ce qui est reprenariat et croissance globale des entreprises. Mais pour revenir au sujet du reprenariat, effectivement, là, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Dans notre région, là, c'est 60 % des transactions qu'on a faites dans la dernière année. Là. Donc, 6 entrepreneurs
sur 10. C'est la moitié, oui. En fait, du financement d'entreprise qui se fait via pour le transfert d'entreprise.
Exactement.
C'est quand même débile. Puis, en fait, c'est quoi le rôle que le Fonds de solidarité veut jouer dans ce secteur-là? Pourquoi s'impliquer dans le transfert d'entreprise, Philippe?
Ta question est pertinente dans la mesure où c'est un enjeu sociétal. Puis le fonds de par sa nature fait 40 ans qu'on aide les entreprises.
Mais attendez, pourquoi c'est un enjeu? Qu'est-ce qui fait dire que le reprenariat, pourquoi ne pas juste les laisser mourir puis en partir des nouvelles?
Mais parce que tu viens de dire, on veut pas les laisser mourir. Ce qu'on veut, c'est protéger l'actionnariat. On veut que les repreneurs soient en majorité, on l'espère, québécois. Il y a un paquet de... Tu regardes l'actualité, tu vois souvent, il y a beaucoup de transactions en ce moment qui se font faire par des fonds américains qui viennent acquérir des entreprises ici. Donc, c'est important de s'impliquer. Nous, au fond, en solidarité, on a décidé que c'était une priorité. Donc, il y a un an, on s'est mis à réfléchir. Le gouvernement nous avait dit, vous connaissez les régions, vous connaissez la moyenne entreprise, on voit ce... Ça fait longtemps qu'on entend parler là, des sédans, puis qu'il y a une vague qui s'en
mais
vient.
C'est ça.
Mais là, on la voit, là. On la voit, elle est là, puis elle n'est pas... Tout à l'heure, tu as parlé de démographie, elle n'est pas que démographique. On a beaucoup d'entrepreneurs en ce moment qui ont entre 40 et 50 ans, ils sont tapés une COVID, ils ont des problèmes avec la main-d'œuvre, ils sont fatigués et qui vont céder leur entreprise. Donc, ça contribue, si tu veux, à ce tsunami d'entreprises qui s'en vient dans les prochaines années. Puis tous les gens qui sont sur le terrain vont te le dire, là, ça bouge en ce moment. Donc, nous, ce qu'on a réalisé, puis on avait certaines pistes de réflexion, on a dit faut passer à l'action. Donc, on avait...
Faut pas laisser ça tomber, là, dans le fond.
Pas du tout.
Y a pas, les services sont pas là. Ce que je comprends dans ce que tu me dis, là, c'est que 34 000 entreprises, il y a pas assez de ressources. C'est vraiment... Puis si on le fait rien, c'est des jobs qui vont être exportés aux États-Unis en Europe.
Des jobs qui vont carrément fermer. Le danger, par exemple, d'une entreprise en région, si elle ne trouve pas de repreneur, ça sera pas peut-être pas vendu à des intérêts étrangers, elle va carrément fermer.
Ah,
donc, il faut être capable d'identifier nos fleurons. Encore une fois, on pourra pas tout sauver nos entreprises, puis pas de sauver, mais d'éviter des transferts. Il faut s'assurer dans quelle sorte d'économie on veut vivre. On veut-tu vivre dans une économie, un Québec, où 50 % de l'actionnariat de toutes les entreprises est à l'étranger? Moi, ma réponse, c'est non. Puis au Fonds de solidarité, on a décidé de s'impliquer à travers ça.
Puis dans le 34 000 entreprises qui vont être à vendre là, prochainement, est-ce qu'on parle autant du fleuriste de coin de rue que la grande entreprise de 1 000 employés et plus?
Ta question est fort pertinente parce que évidemment il y a les petites entreprises et tu as les grandes entreprises aussi. Fait que donc, c'est sûr qu'à l'intérieur de ça, comme par exemple, vous autres, le type de transaction que vous faites, c'est davantage entre 50 et 100 employés.
Oui, on va dire ça à peu près. Là.
Et nous, on a fait des focus groups pour essayer de déterminer quels étaient les besoins des cédants, quels étaient les besoins des repreneurs. Puis ce qu'on voit, c'est que vraiment, la zone grise, elle est entre 100 et 400 employés en ce moment. C'est le type d'entreprise qui a le besoin de plus d'accompagnement. Parce que dans les deux cas, on a un défi au niveau des repreneurs. Il n'y a pas assez de repreneurs pour tout absorber ce qui s'en vient. D'ailleurs, si tu mets 10 personnes dans une salle en ce moment, il y a six personnes qui veulent céder leur entreprise, puis il y en a juste deux qui sont prêtes à le reprendre. Ça va pas bien.
Il y a plus d'offres que de demandes. Là.
Beaucoup
c'est
plus.
Le B en bas de l'économie.
Tout à fait. Et en plus, quand tu regardes les six qui veulent vendre, il y en a juste 40 % qui ont un plan de relève, qui ont identifié qu'est-ce qu'ils veulent faire. Puis vendre son entreprise, c'est pas quelque chose que tu improvises au bye-bye le 31 décembre, puis tu dis « Cette année, c'est ma résolution, je vends mon entreprise. »
Ouais, c'est ça. Ouais. 2024, là, c'est la bonne. Je fais le transfert. Toi, Marie-Claude, justement, est-ce que tu le savais que ça s'en venait quand ta mère a cédé l'entreprise?
Étant donné que c'est familial, je pense que quand c'est familial, tu le sais. Tu le sais, t'es identifié...
T'as un délit d'initié quelque part.
T'es identifié assez tôt, mais ça s'est fait rapidement. Puis probablement trop rapidement. Par la taille, ça a été correct. Par la taille d'entreprise, on a été correct. Mais moi, souvent, ce que je vois, c'est des entrepreneurs qui se disent « Ah, mais j'ai pas besoin de planifier, ça va bien, ma santé est bonne, j'aime encore un business. » Puis finalement, enjeu de santé, enjeu de main-d'œuvre, sont fatigués, ça leur tente plus, puis ils n'ont pas planifié leur relève, surtout s'il n'y a pas de relève identifiée, que ce soit un employé clé ou que ce soit justement des membres de la famille. Là, ça, je le vois souvent, puis c'est là que...
C'est les pires transactions.
Bien, c'est parce que vendre rendu, là, tu n'as pas préparé ton entreprise au niveau financier. Des fois, c'est justement c'est ton entreprise qui te permet de voyager, puis tu mets plus tant d'énergie dans ton entreprise, fait qu'elle est plus aussi profitable. Fait que ça crée vraiment beaucoup d'enjeux.
Ça a pris combien de temps, au final, de A à Z pour
le transfert de
chez Triton? Je pense que le temps, parce que nous, c'était par des soucis de santé. Fait qu'à l'intérieur de 3 ans et demi, la transaction s'est faite.
3 ans et demi?
Bien, 3 ans et demi, où est-ce que... On a su, je dis OK, je vais racheter.
C'est clairement pas une résolution de bye-bye, là. On est comme, on est loin.
Mais ça s'est fait quand même rapidement. Mais après ça, c'est de trouver qui va me financer. J'avais aucune, si la banque voulait prendre quelque chose, j'avais rien, là. J'avais, au moment de la planification, peut-être 25 ans. J'avais mon REER avec 20 000 $ dedans. Il n'y avait pas grand-chose à venir chercher. Mmh. Il fallait une planification financière, une planification stratégique pour être capable d'acheter la compagnie pour que ma mère puisse avoir une retraite décente.
Yannick, ça dérange pas, je vais te relancer sur le point que Marc-Claude avait dit. Dans le fond, elle vivait d'amour et d'eau fraîche. Elle avait juste un bail à son nom, vraiment. Puis, les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui se disent « Hey, ça fait 10, 15 ans, 20 ans que je suis employé, je suis salarié, j'aimerais ça faire le grand saut pour devenir entrepreneur, mais à quelle porte cogner, je sais même pas. » Même moi, je vais être très égoïste, égocentrique ici. J'ai vendu une entreprise, j'ai des moyens, j'aimerais ça acheter une business, puis je sais même pas à qui cogner, d'où viennent les personnes qui vous approchent pour acheter?
Je pense que la première chose, le premier point en commun des gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils ont commencé à cogner, si on veut, à leur propre porte.
Ils ont levé la main, ils se sont ouverts aux affaires.
Je veux le faire. Comment est-ce qu'on le fait? Puis après ça, ben il y a plusieurs organismes. Là. Évidemment, ben, on peut venir le cogner chez nous. Il y a les comptables, il y a le centre de transfert d'entreprise du Québec. L'ensemble de ces organismes-là peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre, mais je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de lever la main puis de dire « OK, je veux le faire ». On parle un peu de processus pour céder une entreprise. Pas oublier que c'est la même chose pour en acquérir une nouvelle.
Non.
On peut pas arriver puis dire « Début 2024, je m'achète une entreprise ». C'est quelque chose qui se planifie avec des gens autour de nous qui sont là pour nous aider.
Tu veux-tu nous en glisser un
peu? Avec plaisir, parce que quand je te parlais de nos réflexions, le bloc d'action sur les repreneurs, il fallait grossir le bassin. Une fois que les... Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de repreneurs qui s'ignorent, là. Puis je pense que les gens...
repreneurs anonymes.
Mais c'est-à-dire que moi, je pense que toute personne de talent, que ce soit un homme ou une femme, qui réussit, qui arrive dans sa vie, fin trentaine, doit au moins une fois dans sa vie se poser la question, je veux-tu reprendre une entreprise? Ça se peut que la réponse, 9 fois sur 10, va être non. Mais si c'est oui, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour prendre cette personne-là?
C'est ça, de ne pas se poser la question une fois dans sa vie, c'est une occasion manquée. Parce que c'est l'accès, dans le fond, à l'entrepreneuriat.
Et lorsqu'on est allé voir l'école d'entrepreneurship de Beauce, je me souviens, c'était cet été, avec la DG Isabelle Lebert, puis Marc Dutille, le fondateur, puis on leur a expliqué qu'on voulait grossir le bassin, on voulait former. Ils ont embarqué dans le projet, aussi fou que ça pouvait être, et dit oui, ça nous intéresse, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on a fait l'annonce au mois de février avec le ministre Fitzgibbon, Jenny Big, notre président était là, juste parce que la force du message était super important. Mais il y a à peine un mois, si tu voulais aller à l'école d'entrepreneurship de Beauce, il fallait que tu possèdes une entreprise.
Ouais.
Là, du jour au lendemain, on rouvre les portes de l'école qui ont un savoir qui, depuis 14 ans, ils forment des... Puis je pense que vous êtes des gradués de l'école.
Tu nous voles le scoop. Deux, on a fait l'école de Beauce, en fait.
Donc, ça a été un moment marquant, moi, dans mon parcours entrepreneurial.
Ils ont 14 ans de coach, de cohorte et tout ça. Et du jour au lendemain, tu rouvres cet écosystème-là de dynamisme à des gens qui aspirent à avoir une entreprise. Donc ça, c'est un parcours extraordinaire. Donc ce parcours s'appelle Mouvement Propulsion Repreneurship. Les premières cohortes vont être au mois de mai. Il y en aura une autre à l'automne. Mais l'idée, c'est vraiment d'allumer la flamme. Et si la flamme s'allume, donc à ce moment-là, on te prend en main puis on te donne la formation, on te dit qu'est-ce que ça te prend. Et aussi pour les cédants, c'est d'initier la réflexion, de pouvoir dire, bon, mais là, il faut que je me prépare. Parce que c'est justement, Marc Dutille me disait, il dit, tu sais, Philippe, il dit, on est tous un jour un futur cédant.
C'est vrai, ça.
Qu'on
le veuille ou non, que ce soit la santé, que ce soit la carrière, à 40 ans, 60 ans, 70 ans, on va céder son entreprise.
Exactement.
À ses enfants ou à des gens inconnus, on devient cédant.
Puis tu sais, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un lieu de mariage aussi. Parce qu'il y a un processus, hein. Ouais. Tu bâtis une entreprise toute ta vie, puis à un moment donné, tu te dis, je vais la laisser aller. Pas évident, là. Fait que là, à ce moment-là, souvent, c'est très confidentiel comme démarche. Tu veux pas que ta compétition le sache, tu veux pas que tes clients le sachent, tu veux pas peut-être que ton management le sache, des fois même pas ta famille. Donc, c'est un processus. Donc, tu as besoin de mentors, tu as besoin de gens qui vont te guider, tu as besoin de gens qui vont te préparer à te recycler. Faut pas laisser tomber ces gens-là. Là.
Non.
Ils vont avoir de l'argent, ils peuvent devenir mentors, investisseurs. Donc, c'est tout ça qu'on veut mettre en place. On travaille beaucoup avec le CETEC, comme tu le mentionnais. Et il faut que les autres membres de l'écosystème, que ce soit famille en affaires ou HEC, entre chefs. Évidemment, le CETEC, là, il y a une semaine qui s'en vient bientôt, il y aura des annonces aussi pour qu'on puisse travailler. Donc, il faut que l'écosystème, faut pas que l'écosystème travaille en silo. Tu parlais des avocats, tu parlais des bureaux de comptables, des spécialistes. Il faut tous travailler ensemble pour faciliter ces transactions-là parce que aujourd'hui, avec le rythme que l'on a, ça va relativement bien.
Ouais.
Mais quand ça va arriver, quand le gros des transactions va arriver, ça va devenir de plus en plus complexe. L'argent, bon, ouais, évidemment, ça
va aller au meilleur dossier aussi.
Va aller au meilleur dossier.
Toi, Marc-Claude, t'as fait l'école de bourse avant ou après le transfert?
Après.
Oui.
Fait que moi, la transfert était faite. Dans ma course, c'était vraiment 50-50. Il y a des gens qui étaient identifiés comme des relèves. Et moi, j'avais déjà acquéri. Puis ça m'a vraiment permis de propulser, de pouvoir comme. Puis de surtout créer des contacts. T'sais, parce que si aujourd'hui, on parlait de groupe, mais si je veux m'associer avec des gens, mais j'y trouve où ces gens-là? Moi, l'école, c'est ce que ça m'a permis, c'est que dans ma cohorte, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui aujourd'hui, on se téléphone, puis il y a des possibilités justement de mariage entrepreneurial.
Non, c'est des clients, c'est des partenaires, ça peut être des joint ventures.
Ben, c'est vraiment un écosystème là, complet.
Puis, je vais faire ma question dérangeante, messieurs. Vous voyez venir. Il y en a eu un puis un autre des programmes de formation, des programmes, des annonces ministérielles. Pourquoi celle-là, tu sais, on l'annonce puis on dit enfin, il y a quelque chose qui se donne sur le transfert d'entreprise. Pourquoi celle-là plus qu'une autre va marcher?
Et la majorité des initiatives dont on parle, ce sont des initiatives de proaction.
C'est vrai.
Parce que là, maintenant, là, comme je puis tu sais, on se l'a dit tout à l'heure, là, céder une entreprise, c'est un processus qui est long. Il y a une autre réflexion, si tu me permets. Il faut aussi développer le réflexe de nos cédants d'essayer de garder leur entreprise au Québec. Comme toi, quand tu as fait ta transaction, si je me trompe pas, tu cédais des intérêts québécois.
Oui, Beyond Group Santé, qui est une entreprise locale.
C'était-tu important pour toi? C'était-tu en haut de ta liste ou tu aurais eu un prix plus élevé puis tu aurais vendu?
Bien, moi, c'est assez particulier parce que ça s'est fait par la bande, ce choix-là. J'avais deux choix. Soit que je réduisais mes effectifs puis je vendais à des intérêts étrangers, américains. Donc, automatiquement, je coupais des jobs, puis là, j'atteignais des métriques qui me permettaient de vendre à des intérêts étrangers. Ou je gardais les jobs, puis je vendais à des intérêts québécois moins chers. Et de deux, je me voyais pas dire à quelqu'un, « Ouais, parce que je veux faire plus d'argent, faut que je coupe ta job. » Ça, pour moi, ça n'a pas passé, fait que j'ai vendu à des intérêts québécois.
Si je peux me permettre, ce qu'on voit aussi sur le terrain, on va dire ça comme ça, c'est que c'est les entreprises qui planifient d'avance leur relève, qui sont en mesure de faire un peu les deux. Parce qu'en planifiant...
Ça, c'est un bon point.
Ouais, parce qu'en planifiant cette relève-là, en responsabilisant, par exemple, certains employés, en étant peut-être un petit peu moins dans le day-to-day des opérations, en s'entourant aussi, puis en se donnant le temps d'être entouré puis d'écouter ces conseils-là,
on est en mesure...
Oui,
c'est d'avoir de l'oxygène, là.
Exactement. On est en mesure de voir des entreprises qui prennent une bonne croissance. Puis quand vient le moment de vendre, bien, il y a deux choses. Premièrement, les repreneurs sont ciblés. Ou s'ils sont pas ciblés à l'interne, bon, au moins, on a des employés de confiance qui sont prêts à rester puis qui rassurent l'acheteur à payer, par exemple, des fois des multiples un petit peu plus grands.
Une transaction de relève d'entreprise, on parle de bien l'identifier, d'avoir du monde. Philippe, as-tu un cas dans une histoire qui te vient en tête?
On en a plusieurs, mais récemment, je vous disais qu'on avait fait des groupes de discussion pour essayer de comprendre la réalité. On avait une entreprise qui s'appelle le groupe Larrault, qui font des pousses pour les fraises en serre. Et Monsieur Larrault, c'était le cédant, puis il nous explique tout son rationnel, que c'est trois filles qui avaient bien réussi, mais qui n'étaient pas intéressées à reprendre la relève. Puis là, il se voyait à la croisée des chemins. J'ai un collègue au bureau qui me disait, hey, tu devrais parler à Antoine, et c'est un repreneur, puis il y a des choses à dire. Et là, je commence à parler à Antoine.
C'est un repreneur, c'est un professionnel.
C'est un professionnel, il travaillait dans une grande firme d'investissement, il avait sa spécialité en agro. Et là, je commence à parler à Antoine, puis je réalise que c'est le repreneur de M. Larrault. Là, j'ai dit, expliquez-moi comment vous avez fait. Puis ils se sont carrément courtisés pendant 6 mois, là. Ils se sont vus, ils échangeaient, puis là, Antoine partageait, puis il faisait ça
c'est
avec sa femme.
C'est comme un dating, là.
Ben, c'est carrément ça. Il expliquait un petit peu qu'est-ce qu'il ferait à l'international. M. Larrault disait, je serais plus jeune. Puis à un moment donné, même Antoine, qui, comme je te dis, qui réussissait bien, qui avait son bonus, puis il a fait équipe avec son épouse, il a dit, écoute, là, ça me tente de peut-être reprendre une entreprise, là, j'ai normalement un bonus. C'est sûr que je m'achète une décapotable ou j'investis pour dans des ressources pour faire une transaction. Et à la fin, la transaction s'est faite et M. Larrault a accepté moins d'argent, parce que quand ça s'est su qu'il voulait vendre son entreprise, il y a des gens qui sont arrivés, il a accepté moins d'argent pour vendre à Antoine et à sa femme. Nous, on connaissait le background d'Antoine, on connaissait le business, donc le fonds de solidarité, on a été prêts à financer cette transaction-là.
Un petit peu plus de risque. Là.
Un petit peu plus de risque. Et juste pour l'anecdote, c'était cute, c'est à la fin de la transaction, il y a une des filles qui a accroché Antoine, le repreneur, puis il a dit, j'ai une faveur à te demander. Lui, il dit, bon, ça y est.
La transaction vient de chirer.
Exactement. Elle dit, tu peux-tu juste laisser une clé à mon père pour qu'il vienne faire un tour à business une fois par semaine? C'est une belle transaction où, justement, il y a eu un contact, il y a eu probablement des mentors qui ont été là-dedans. T'avais un repreneur de qualité, puis t'avais un cédant qui... C'était important pour lui de laisser son entreprise de la propriété au Québec. Fait que ça, on en a plusieurs au fond comme ça. Mais tu demandais tout à l'heure pourquoi le fond. Bien, nous, on veut s'impliquer davantage. Le partenariat avec l'école d'entrepreneurship, c'est important. On veut collaborer avec le CETEC, on veut collaborer avec l'écosystème. Et ce qu'on veut, c'est voir ces belles... Parce qu'il faut protéger nos fleurons, parce que ce soit des fleurons technologiques dans lesquels on a beaucoup investi de recherche et développement, puis de l'argent, c'est de l'argent du Québec, ou des entreprises qui sont plus stratégiques en région en termes d'emploi.
Là, je vais revenir sur la statistique qu'on a dit. 6 sur 10 veulent céder dans les prochaines années. Mais on aurait juste 2 personnes sur 10 au Québec qui veulent acheter une entreprise. Comment qu'on peut, justement, réduire ce gap-là?
Je pense qu'il faut aller chercher les repreneurs qui s'ignorent. Faut les former. Faut adresser le marché. Faut les accompagner. Les mentors, c'est la clé.
Yannick, c'est quoi la situation dans la région avec cette offre et demande-là, gap?
Je dirais que c'est assez similaire dans les grandes régions comme à Québec, mais ce qu'on voit, c'est que dans les régions un peu plus éloignées, le gap est plus grand.
Mettons en Gaspésie. C'est-tu 1 sur 10 qui veulent reprendre?
J'ai pas la statistique exacte, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de repreneurs, par exemple, de grandes régions comme Québec ou Montréal, qui vont vouloir acheter des entreprises en Gaspésie plutôt qu'un repreneur qui vit en Gaspésie pour acheter cette entreprise-là. Fait que c'est de là où ce que vient la statistique. Bien, c'est de là où ce qu'on croit qu'il y a un plus grand gap en région à l'heure actuelle.
Fait que petit spécial pour l'épisode d'aujourd'hui, en fait, on s'est permis pour la première fois d'aller déranger des entrepreneurs dans leur entreprise. C'était un peu la vision qu'on avait des dérangeants au tout début, Marc-Claude, tu sais.
Ouais.
Je me souviens, on disait on va aller déranger du monde.
Mais de sortir dans le fond des studios puis de rencontrer ces entreprises-là.
Puis de voir leur quotidien. En fait, donc, ça nous aura pris quelques 100 épisodes, mais au final, on a un couple d'entrepreneurs de la région de Québec qui ont repris le groupe de restaurants Ashton. Donc, les poutines qu'on connaît naturellement. Puis Yannick, tu as été impliqué dans la transaction, je pense.
Exactement. Puis c'est la beauté du fonds de solidarité. Comme je l'expliquais, nous, on est les fonds régionaux de solidarité, on est localement dans un endroit, puis on est des généralistes, donc on touche un peu à tout. Mais le fait d'avoir été impliqué localement avec l'ensemble des autres partenaires, ça nous a permis d'avoir les yeux sur la transaction, puis après ça, d'impliquer un membre du Fonds de solidarité à Montréal qui est en agroalimentaire. Là. On a eu le droit à cette expertise-là.
L'expertise au complet était là. Mais écoute, on écoute les dérangeants sur la route à l'instant. Hello! Salut, enchanté!
Bonjour!
Moi, c'est Étienne. Yes.
Enchanté!
Émilie!
Salut, Émilie!
Jean-Christophe, Émilie, merci de nous recevoir dans le magnifique Ashton fraîchement rénové.
Oui, merci à vous.
Oui, on est content de vous recevoir.
Oui.
C'est vraiment une belle histoire. En fait, je serais juste curieux, premièrement, parlez-moi de votre parcours. Comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Vous avez étudié quoi à l'université, mettons?
Oui, bien, ça part de loin, en fait. On a commencé, en fait, par un plan d'affaires. Là. Moi et Jean-Christophe, à l'université, on a fait chacun nos études de notre côté. En fait, moi, j'étais plus en finances corporatives, finances personnelles également. Jean-Christophe, toi, t'étais...
Moi, j'ai fait un bac en marketing puis spécialisé en entrepreneuriat aussi.
Ouais. Génial. Fait que c'était vraiment déjà à la base.
Ouais.
Tu savais
tu voulais devenir entrepreneur, ouais. Tu savais juste pas nécessairement où.
Mmh. Exactement.
Là, vous êtes devenu propriétaire des Ashton depuis combien de temps?
Ça fait depuis mars 2022, donc un an et demi.
Puis quand est-ce que vous êtes dit justement, le fonds serait un bon partenaire pour nous aider là-dedans? Quand est-ce que le fonds est rentré dans l'équation, en fait?
Ben rapidement, en fait, quand on s'est mis dans la tête de réaliser le projet de l'acquisition des restaurants Ashton, on s'est bien entouré, on est allé chercher nos aviseurs financiers de chez PwC, Pricewaterhouse, okay, ouais. Avec Maxime Détrault. Puis c'est à ce moment-là vraiment que Maxime nous a mis en relation avec le fonds pour nous dire qu'en fait, c'était le bon partenaire pour nous autres.
OK, puis toi, Benoît, c'est toi qui as pris l'appel déjà, t'as pris le courriel, c'est rentré direct?
C'est via la gang de Québec que, dans le fond, ils ont dit « Oh, il y a une transaction potentielle, Ashton, il faut être là. » C'est deux jeunes qui reprennent une entreprise qui a été fondée fin des années 60. Ils reprennent des mains du fondateur. Alors, on a travaillé en partenariat avec notre équipe de Québec pour réaliser la transaction. Maintenant, si on regarde en général la question du reprenariat, ça fait 20 ans au fond qu'on travaille sur cet aspect-là.
Pour aider vraiment les entrepreneurs à garder les fleurons québécois.
Avec des produits et avec une sensibilité particulière. C'est Liberté 55 des boomers, là.
Ah,
c'était il y a 20 ans. Là, ça commence, ça s'accélère. Donc, nous, là, on est sensible à cette question-là depuis plusieurs années. Mais quand ça s'est présenté, on ne pouvait pas passer à côté.
C'est un match made in heaven, comme on dit en bon français. Ouais. Quand est-ce que vous avez dit, justement, notre dossier est assez solide pour les financiers? Est-ce que c'était parce que vous aviez fait vos classes avant?
Oui. Oui, vraiment, on a travaillé fort. Honnêtement, pendant un an de temps, on a travaillé vraiment notre plan d'affaires pour Ashton.
Oui.
Voici la situation, voici où ce qu'on veut l'apporter. Puis après ça, on s'est bien entouré là, au niveau de PwC pour l'acquisition, au niveau de nos avocats aussi, Fasken, Carl Tremblay. Puis c'est là, après ça, qu'on est arrivé et on a dit, bon,
on est prêt. On est béton.
Puis là, de la chaîne nationale au Ashton, on s'entend que c'est un business case, comme on dit, de reprenariat.
Oui.
Vous n'êtes pas des fondateurs. Vous arrivez dans une culture existante. C'est déjà en place. Pourquoi le reprenariat vous intéressait plus que de partir des restaurants from scratch, comme on dit?
Ben, sérieusement, c'était une question d'accélérer notre croissance, en fait. On partait avec une bonne base.
C'est ça.
Puis les gens en place, tu sais, la structure était là, l'organisation était là, ça allait super bien, l'entreprise était en santé. Fait que pour nous, c'était un accélérateur de croissance.
Là, vous avez acheté une entreprise éponyme de son fondateur, Ashton Leblon, carrément. Oui. Ça faisait 53 ans qu'il était à la tête de son entreprise, si je me trompe pas.
Oui.
Exact.
À quel point ça rajoute des points de complexité que de faire un reprenariat du fondateur qui a son nom dans la business?
Ouais. Mais pour nous, en fait, ça a été à l'inverse. Ça n'a pas été complexe. Les gens nous ont aidés justement à rendre le tout plus facile parce que l'équipe en place chez Ashton, c'est vraiment wow, honnêtement, là, on le dit toujours, mais c'est vraiment grâce à eux qu'on permet justement d'avoir des projets de croissance et tout ça. Donc, nous, ils nous ont juste accueillis les bras ouverts puis ça s'est super bien passé. Là.
Quand on parle d'humain dans l'équation, tu disais l'équipe d'Ashton est absolument phénoménale.
Oui,
elle vous a aidé, vous a propulsé dans la transaction.
Oui.
Comment ça se passe comme repreneur? Tu arrives dans une entreprise, puis il y a déjà une équipe en place, il y a une culture.
Oui.
Puis là, t'es le nouveau venu.
Oui.
Est-ce que du monde vont perdre leur job? Est-ce qu'ils vont tout changer ça? Comment ça s'est passé, cet accueil-là?
Bien, en fait, on était vraiment bien préparés. On a fait un plan 90 jours également avec l'équipe.
OK.
Puis, c'était important, justement, en commençant, quand t'achètes une entreprise comme ça, vraiment de venir rassurer les gens. Là. Au début, t'observes, t'écoutes, puis tu viens rassurer que tout le monde a gardé son emploi. Puis, par la suite, ben tu commences justement ton plan 80 jours en posant les bonnes questions. Puis, après ça, tu peux être capable de déployer justement ton plan de croissance.
La communication se fait un peu d'elle-même,
exact.
Puis vous suivez dans le plan. Le rebranding de Ashton que vous avez fait, vous avez enlevé le « chez » pour juste garder « Ashton ».
Oui.
Puis, est-ce que ça a été primordial dans le plan d'affaires? En fait, Benoît, pour toi, c'était-tu intrinsèquement relié à la transaction de faire un changement de branding?
Ben naturellement, la première étape... Ça a pris, on le voit, ça a pris quelques années, même les négociations et tout ça. C'était vraiment de réaliser ça. Et donc, cette acquisition et le transfert au niveau de la gestion. Donc, nous, notre premier accompagnement, c'était pour ça. Maintenant, c'est sûr que la croissance, que ça soit interne ou externe, donc en ajoutant des restaurants ou en faisant l'acquisition, Ben, à partir du moment où ils nous ont dit que ça fait une partie du plan de match, ben, nous, on s'est dit, on va être là pour vous accompagner. Si vous avez besoin de 5 ans ou de 20 ans, on va être là.
Ben, ça, c'est un bon point, parce que je serais curieux. Tu sais, le fonds est là, que ce soit pour une acquisition ou plusieurs, au terme. Pourquoi avoir choisi le fonds comme partenaire financier plus qu'un autre?
Ben, le fonds, vous l'avez dit, ils sont là pour soutenir les entrepreneurs québécois. C'est un petit peu ça, tu sais. Ashton, c'est un fleuron québécois. Fait que pour nous autres, ça allait de soi que ça prenait des partenaires québécois. Puis ils ont des experts aussi en agroalimentaire. Fait que c'est des ressources de plus que même post-transaction, après la transaction, on est capable de lâcher un coup de fil puis on a du support de plus, là. Mm.
Fait qu'ils sont vraiment là de A à Z sur toute, chaque étape au final. Fait que c'est quoi le prochain move pour vous avec maintenant, là, je comprends, autour de 750-800 employés dans le groupe total, 25 restaurants et on continue, des rénovations. C'est quoi la Coupe Stanley?
Hey, la Coupe Stanley, ben nous,
on
notre objectif,
que le téléphone, c'est...
c'est de devenir un joueur national de la poutine, hein? c'est ça le...
Pan-canadien?
Exactement, ouais. Une poutine à la fois, mais sûrement que c'est ça l'objectif.
Ça va être vraiment, vous allez exporter la culture du Québec en partant de ça. C'est un plaisir. Merci Jean-Christophe, Émilie.
Vous et voilà.
La poutine. Incroyable, ma foi.
Comme ça ici.
Fait que là, on a le droit. On se lance. Oui.
Allez-y.
OK.
À ton goût?
Oui.
Jean-Christophe, Émilie. Merci énormément de nous avoir reçus.
Merci à vous.
Ça faisait longtemps qu'on voulait déranger des vrais entrepreneurs dans leur milieu.
C'est on aime fait. Ça, se faire déranger, c'est le fun.
On viendra. Benoît, ce n'est que partie remise.
Ça a été un plaisir.
Merci.
Donc, de retour en studio, merci beaucoup à Émilie et Jean-Christophe pour leur accueil. Ça a été vraiment une belle visite.
Mais moi, ce qui m'a marqué de ta capsule, ta visite chez Ashton, c'est de la... Quand ils ont dit qu'ils se sont préparés un an, même avant de présenter
le dossier,
j'ai dit « wow, c'est solide ». C'est là qu'ils t'ont rencontré.
Ben, en fait, je peux faire une anecdote. J'étais dans leur cours d'entrepreneurship à l'université 10 ans avant.
Émilie et Jean-Christophe, c'est des collègues de l'école pour toi, Yannick. Ouais,
exactement. Ils étaient dans mes cours d'entrepreneurship, puis leur projet final, c'était l'achat d'une grande chaîne de restaurants rapides.
Fait que c'était vraiment leur vision. Ouais. Ils voulaient le faire. Ils ne savaient pas laquelle.
Exact.
Là-dessus. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé de leur histoire, c'est qu'ils ont fait leur classe. Ils se sont lancés. Il y avait une chaîne de restaurants avant qui ont tout vendu pour avoir les fonds pour faire cette acquisition-là. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est en fond, je pense, c'est une des transactions moi, qui m'impressionne le plus parce que c'est un fleuron québécois. C'est des jobs, ils sont pas loin de 800 employés au final aujourd'hui. Puis, si c'était arrêté à des barrières psychologiques, il n'y aurait jamais eu ça. C'était une vision, ils se sont lancés dans le vide.
Mais tu parles de barrières psychologiques, puis moi, ce que j'entends souvent, c'est parce que c'est sûr, je vais souvent parler de reprenariat ou de transfert d'entreprise. Puis, récemment, j'ai une amie qui est en réorientation de carrière, puis je lui dis, bien, peut-être qu'acheter une entreprise, ce serait une bonne formule pour toi. Puis, elle me dit, mais elle dit, j'ai pas les fonds. J'ai pas l'argent nécessaire. Puis souvent, c'est ce que j'entends, les gens ont peur parce qu'ils se disent, bien, j'ai pas l'argent nécessaire. Comment est-ce qu'au niveau du financement, on peut venir les rassurer, ces gens-là, comme quoi que c'est une option possible et qui est accessible?
Mais tu as différents types de partenaires. T'sais. Si toi, tu es fort en finance, tu vas peut-être vouloir avoir un partenaire qui est fort en marketing.
En opération.
Il y a des partenaires financiers. On en est un. Puis je suis certain que le gouvernement, au fil des mois, des prochaines années, étant donné l'importance de ça puis de la force du signal, va peut-être mettre en place des enveloppes pour faciliter les transactions. Mais à la fin, c'est souvent une architecture qui est à mettre en place. Mais ton amie devrait pas s'arrêter là.
Ben,
premièrement, qu'elle devrait faire, elle devrait aller à l'école d'entrepreneurship au mouvement
de propulsion.
Mouvement propulsion entrepreneurship. Puis là, s'ouvrir, elle va peut-être se faire des alliés. On va lui donner des éléments, des pistes à explorer, parce que c'est super important. Puis dans l'histoire d'Ashton, il y a un cédant qui voulait céder, qui a été pris d'amitié de ce couple-là. Puis on revenait à l'histoire de M. Larrault, où il y a un certain... Je pense qu'ils ont dû se rencontrer. Il a fallu qu'il y ait un fit. Puis là, tu sais, il s'est reconnu là-dedans. Donc ça aussi, c'est important.
Là, les gens qui nous écoutent en ce moment, y a-t-il une manière qu'ils peuvent... rentrer en contact avec le fonds pour avoir ces informations-là?
Bien, on a une adresse courriel qui est reprenariat à commercial fondsftq, fonds avec un s.com. Et là, à ce moment-là, on peut essayer de les diriger. Mais comme je te dis, avec l'écosystème, ce qu'on essaie de travailler, le CETEC, l'école d'entrepreneurship, on essaie de mettre en place des gens préparés, des gens qui ont fait la démarche. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour une institution bancaire ou une institution comme la nôtre de travailler avec ces gens-là parce qu'ils sont bien préparés, ils n'arrivent pas à froid.
Mais messieurs, Philippe, merci énormément de t'être prêté au jeu.
Ah, c'est tellement un honneur et un plaisir de vous avoir rencontré.
C'est super intéressant. Yannick également.
Avec plaisir, merci.
Écoutez, vous êtes deux experts vraiment de qualité. Moi, je ressors d'ici avec, en fait, juste le... Je vais envoyer un courriel à Repreneuriat avec FTQ. Je me rends compte de ça, que je veux acheter des entreprises. Marc-Claude, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à toi, Étienne.
C'était super intéressant. Donc, à la maison, écoutez, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes balado, que ce soit Apple, Spotify, que ce soit on a notre chaîne YouTube. Allez voir aussi lesdérangeants.com pour une foule de ressources. On va avoir d'autres capsules d'informations sur le transfert d'entreprise. Merci au Fonds de solidarité FTQ. Écrivez à l'adresse reprenariat@fonds.com si vous voulez vous lancer en affaires et je vous invite fortement à vous poser la question une fois dans votre vie, est-ce que je veux rester salarié ou acheter une business une fois? Donc, c'était Étienne Crevier qui vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Dérangeants.
Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était Dans le garage. Dans le garage. Avec les Dérangeants.